Soit, Trasimac. Et tu crois que je suis un calomniateur? Très certainement. Tu crois que j'ai cherché à te tendre des pièges par des interrogations captieuses? Je l'ai bien vu, mais tu n'y gagneras rien. J'apercevrai toutes tes ruses, et tes ruses éventées, tu n'espères pas l'emporter sur moi dans la dispute. Je ne veux te tendre aucun piège, mais pour que rien de semblable ne puisse avoir lieu, dis-moi si cette expression, celui qui gouverne, le plus fort, dont l'intérêt, disais-tu, est pour le plus faible la règle du juste, tu le prends comme le vulgaire ou dans son sens rigoureux? Dans le sens le plus rigoureux. Mets en œuvre à présent tes artifices et tes calomnies, et fais voir ce que tu peux. Je ne m'y oppose pas, mais en vérité, tu perdras ta peine. Me crois-tu assez insensé pour essayer de tondre un lion et calomnier Trasimaque? Tu l'as essayé, et sans y parvenir. Trêve à ces propos, et réponds-moi. Le médecin, en le définissant avec rigueur, comme tu disais, a-t-il pour objet de gagner de l'argent ou de guérir les malades? De guérir les malades? Et le pilote? J'entends le vrai pilote. Est-il matelot ou chef de matelot? Il est leur chef. Peu importe qu'il soit comme eux sur le vaisseau, il n'en est pas plus matelot pour cela. Car ce n'est pas parce qu'il va sur mer qu'il est pilote, mais à cause de son art et de l'autorité qu'il a sur les matelots. Cela est vrai, Socrate. Les matelots n'ont-ils pas un intérêt qui leur est propre? Oui. Et le but de leur art n'est-il pas de rechercher et de procurer à chacun d'eux ce qui lui est avantageux? Sans doute. Mais un art quelconque a-t-il un intérêt étranger, et ne lui suffit-il pas d'être en lui-même aussi parfait que possible? Comment dis-tu, Socrate? Si tu me demandais s'il suffit au corps d'être corps, ou s'il lui manque encore quelque chose, je te répondrais que oui, et que c'est pour cela qu'on a inventé la médecine, parce que le corps est quelquefois malade, et que cet état ne lui convient pas. C'est donc pour procurer au corps ce qui lui est avantageux que la médecine a été inventée. Ai-je raison ou non? Tu as raison. Je te demande de même si la médecine, ou tout autre art, admet en soi quelques défauts, et s'il lui faut encore quelques vertus, comme aux yeux la faculté de voir, aux oreilles celle d'entendre, un autre art enfin qui remédie à cette imperfection. L'art en lui-même est-il aussi sujet à quelques défauts, en sorte que chaque art ait besoin d'un autre art qui veille à son intérêt, celui-ci d'un autre, et ainsi à l'infini? Ou bien chacun pourvoit-il par lui-même à ce qui lui manque? Ou plutôt, n'a-t-il besoin pour cela ni de lui-même, ni du secours d'aucun autre art, étant de sa nature exempt de tout défaut et de toute imperfection? De sorte qu'il ne doit avoir d'autre but que l'intérêt de la chose sur laquelle il s'exerce, et que sa perfection naturelle n'est point altérée tant qu'il reste tout entier ce qu'il est par essence. Examine avec une attention scrupuleuse lequel de ces deux sentiments est le plus vrai. C'est le dernier. La médecine ne regarde donc pas son intérêt, mais celui du corps. Sans contredit. Il en est de même de l'équitation par rapport au cheval, et en général des autres arts qui, désintéressés en eux-mêmes, n'ont en vue que l'intérêt de la chose sur laquelle ils s'exercent. Cela est comme tu dis. Mais, Trasimaque, l'art gouverne ce sur quoi il s'exerce, et leur rapport est celui du plus fort au plus faible. Il eut de la peine à m'accorder cela. Il n'est donc point d'art ni de science qui se propose ni qui ordonne ce qui est avantageux au plus fort qu'il exerce. Tous ont pour but l'intérêt du plus faible sur qui il s'exerce. Il essaya de contester ce point, mais à la fin il l'accorda. Ainsi, lui dis-je alors, le médecin, en tant que médecin, ne se propose ni n'ordonne ce qui lui est avantageux, mais ce qui est avantageux au malade. Car nous sommes convenus que le médecin, en tant que médecin, gouverne le corps et n'est pas un mercenaire. N'est-il pas vrai ? Il en convint. Et que le vrai pilote n'est pas matelot, mais chef de matelot. Moi, j'en suis convenu, dit Trasimaque. Un tel chef n'aura donc pas en vue et n'ordonnera pas ce qui lui est avantageux, mais ce qui est avantageux à ses subordonnés, c'est-à-dire aux matelots. Il l'avoua, quoique avec difficulté. Par conséquent, Trasimaque, tout homme qui gouverne, considéré comme tel, et de quelque nature que soit son autorité, ne se propose jamais son intérêt propre, mais celui des sujets. C'est à ce but qu'il vise. C'est pour leur procurer ce qui leur est avantageux et convenable qu'il dit tout ce qu'il dit et fait tout ce qu'il fait. Nous en étions là, et tous les assistants voyaient clairement que la définition de la justice était devenue précisément le contraire de celle de Trasimaque, lorsqu'au lieu de répondre, il me dit « Socrate, as-tu une nourrice ?»« Qu'est-ce ceci ? » répliquai-je. « Ne vaut-il pas mieux répondre que de faire de pareilles questions ?»« Elle a grand tort, » reprit-il, « de te laisser ainsi morveux et de ne pas te moucher. » En vérité, tu en as besoin, car elle ne t'a seulement pas appris ce que c'est que des troupeaux et un berger. Explique-toi, je te prie. Tu crois que les bergers pensent au bien de leurs troupeaux, qu'ils les engraissent et les soignent dans une autre vue que leur intérêt et celui de leur maître? De même, tu t'imagines que dans les États, ceux qui gouvernent véritablement sont dans d'autres sentiments à l'égard de leurs sujets que les bergers à l'égard de leurs troupeaux? Tu t'imagines que jour et nuit, ils sont occupés d'autre chose que de leur propre intérêt? Tu es si loin de connaître la nature du juste et de l'injuste que tu ne sais pas même qu'en réalité, la justice est un bien pour tout autre que pour l'homme juste? Qu'elle est utile au plus fort qui commande? Et nuisible au plus faible qui obéit? Que l'injustice, au contraire, soumet à son joug l'homme simple par excellence? Le juste qui, étant le sujet du plus fort, se dévoue à son intérêt et travaille à son bonheur, sans penser au sien? Simple que tu es, vois donc que le juste a partout le dessous vis-à-vis de l'injuste. Dans les transactions privées, tu trouveras toujours que le dernier résultat est un gain pour l'injuste, une perte pour le juste. Dans les affaires publiques, quand il faut donner, le juste, avec des biens égaux, donne davantage. Faut-il recevoir? Le profit est tout entier pour l'injuste. Que l'un ou l'autre exerce quelque charge, le premier, s'il ne lui arrive rien de pis, laisse dépérir ses affaires domestiques par le peu de soins qu'il y apporte. Et la justice l'empêche de les rétablir au préjudice de l'État. De plus, il est odieux à ses amis et à ses proches, parce qu'il ne veut rien faire pour eux, au-delà de ce qui est équitable. C'est tout le contraire pour l'injuste. Comme j'ai déjà dit, ayant un grand pouvoir, il s'en sert pour gagner le plus possible. Voilà l'homme qu'il faut considérer, si tu veux comprendre combien l'injustice est plus avantageuse que la justice. Tu le comprendras encore mieux si tu considères l'injustice parvenue à son dernier terme, mettant le comble au bonheur de l'homme injuste et au malheur de celui qui en est la victime, et qui ne veut pas repousser l'injustice par l'injustice. Je parle de la tyrannie qui ne s'empare point en détail du bien d'autrui, mais l'envahit tout à la fois au moyen de la fraude ou de la violence, sans distinction de ce qui est sacré ou profane, de ce qui appartient au particulier ou à l'État. Qu'un homme soit pris sur le fait, commettant quelqu'une de ces injustices. Des supplices et les noms les plus odieux l'attendent. Selon la nature de l'injustice particulière qu'il aura commise, on l'appellera sacrilège, ravisseur, voleur, fripon, brigand. Mais un tyran qui s'est rendu maître des biens et de la personne de ses concitoyens, au lieu de ses noms détestés, est appelé homme heureux, non seulement par ses concitoyens, mais encore par tous ceux qui viendront à savoir qu'il n'y a pas une espèce d'injustice qu'il n'ait commise. Car si on donne à l'injustice des noms odieux, ce n'est pas qu'on craigne de la commettre, c'est qu'on craint de la souffrir. Ainsi, Socrate, l'injustice, quand elle est portée jusqu'à un certain point, est plus forte, plus libre, plus puissante que la justice. Et comme je le disais en commençant, la justice est ce qui est avantageux au plus fort, et l'injustice est utile et profitable à elle-même. À ces mots, Thrasymaque parut vouloir s'en aller, après nous avoir comme inondé les oreilles, à la manière d'un baigneur, de ce long et impétueux discours. Mais on le retint, et on l'obligea de rester pour rendre raison de ce qu'il venait d'avancer. Je l'en priai moi-même avec instance.